Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de J'ai fait un humain en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, c'est Gabrielle Caron et vous vous apprêtez à écouter un épisode de J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je rencontre Stéphanie qui a un petit bébé de 11 semaines à la maison. Ce qui a vraiment marqué la grossesse de Stéphanie, c'est le cancer qu'on lui a diagnostiqué au tout début de sa grossesse. Donc, Stéphanie a eu le choix entre interrompre sa grossesse ou la poursuivre tout en faisant de la chimiothérapie. Ce qui m'a marqué, c'est que c'était la première fois que j'entendais une histoire comme la sienne. J'avais jamais entendu le récit d'une femme enceinte qui a le cancer. C'est vrai, quand on y pense, il y a quelque chose de vraiment bizarre d'imaginer la maladie et la vie se côtoyer dans une seule et même personne. Stéphanie, elle a vécu des montagnes russes d'émotions. Elle a dû prendre beaucoup de décisions. Ça n'a vraiment pas dû être un parcours facile. Heureusement, elle était très bien entourée avec son chum, avec l'équipe médicale du CHUM. Puis ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là, le beau de cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, le bébé va bien et Stéphanie est en rémission. On va commencer ça comme ça, en disant tout d'abord, Stéphanie, merci énormément d'être avec moi aujourd'hui parce que tu as un bébé de 11 semaines à la maison.
Oui.
11 semaines. Avant d'arriver dans la naissance de ta fille et dans tout ce qui a suivi, j'aimerais savoir si tu as eu une belle grossesse.
Pas vraiment, non. Oh.
Bon, ça part bien.
Ça commence fort. Non, j'ai pas vraiment eu une belle grossesse. En fait, ça a commencé. J'ai eu très tôt, moi, des gros maux de cœur. Fait que, tu sais, ça a commencé. J'avais beaucoup de nausées. J'étais pas malade, mais j'avais beaucoup de nausées. J'ai fait de l'hypoglycémie très tôt. Fait que je prenais de la médication pour ça. Puis, avant de tomber enceinte, je me disais, mais, tu sais, je veux pas prendre de médicaments. Tu sais, on veut comme que tout soit parfait. Puis là, j'étais déjà sur des médicaments pour les nausées. Fait que là, il y avait ça. Fait que, tu sais, je me sentais pas si bien, là, déjà. Ça partait un peu difficilement, mais j'avais hâte, tu sais, au deuxième trimestre, là, à la moitié de ma grossesse, parce que je me disais, tu sais, il y a des meilleurs jours à venir. Là. Les gens disent que ça diminue, deuxième trimestre, moins de nausées et tout, mais j'ai pas eu le temps de me rendre vraiment à la moitié de la grossesse avant que ça explose un petit peu dans mon cas. Au mois de mars, c'est que j'étais à peu près à 11 semaines de grossesse, j'ai reçu un appel de mon médecin de famille qui m'a dit « On a reçu les résultats de ton dernier pap test qui datait de fin novembre. » J'étais même pas enceinte à ce moment-là, en fait. Fait que, tu sais, on pense pap test, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça faisait longtemps que j'avais oublié que j'avais fait un pap test. Donc, il y avait des cellules anormales dans mon pap test. Donc, rapidement, j'ai eu un rendez-vous au CHUM pour faire une biopsie. En fait, je pense qu'ils ont fait un autre pap test et une biopsie, puis pour savoir si c'était des cellules précancéreuses ou cancéreuses. Fait que on était vraiment dans quelque chose d'intense.
Puis t'es enceinte?
Je suis enceinte, là. Je suis enceinte de 11 semaines à peu près.
Oh ouais. Mon Dieu!
Oui, exactement. Puis au départ, c'est ça, le pap test, c'est juste, c'est précancéreux et tout. Mais 8 semaines plus tard, en fait, à 19 semaines de grossesse, je reçois un appel du médecin pour venir rapidement au CHUM. Puis c'est là que le médecin m'annonce. En fait, j'ai vu un gynécologue-oncologue qui m'a annoncé que j'avais un cancer du col de l'utérus à 19 semaines de grossesse.
Mais oh, j'ai tellement de questions. Ouais. J'ai tellement de questions. Premièrement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu apprends ça?
La première question que j'ai... En fait, on dirait que j'ai eu un peu un blanc, là. Il s'est comme pas passé grand-chose dans ma tête. T'sais, j'ai pleuré beaucoup après, mais sur le coup, il s'est pas passé grand-chose. J'ai juste... La première question qui m'est venue en tête, c'est « Est-ce que je vais perdre mes cheveux? » Puis il m'a répondu un oui très, très franc, là, parce que des fois, apparemment que c'est pas tout le monde, pas tous les traitements de chimiothérapie qui donnent... qui font perdre les cheveux, mais dans mon cas, il a été très, très honnête rapidement, comme quoi j'allais perdre mes cheveux, et que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mes cheveux. Mais aussi, parce que c'est difficile de revoir un peu ce qui se passait dans ma tête, comme il y a eu un petit blackout au moment où ça s'est passé, mais après coup, quand j'y repense, on dirait que la seule question qui me vient, c'est « qu'est-ce que tu veux dire, j'ai le cancer? » Tu sais, on dirait que quand... Tu sais, la grossesse, ça t'épargne pas. On pense pas, personne pense que tu peux combiner cancer et grossesse. Ça fait pas de sens dans la tête des gens. Parce que là, ça a été mon cas, là. J'ai eu le cancer pendant la grossesse. Puis, je le vois dans la tête des gens, là. Ils me regardaient la tête, regardaient mon ventre. Puis, les gens comprennent pas. Mais tu sais, ça nous immunise pas contre le cancer étant enceinte. Tu sais, c'est juste, ça arrive quand même à pas beaucoup de monde. C'est des cas très rares, mais quand même.
Ça marche pas,
ça fait pas de sens.
Donc là, est-ce qu'il y avait un danger pour ton bébé? T'sais, est-ce que tu as eu un choix à faire entre un traitement ou ton bébé? Comment oui. Ça cohabite le cancer puis une grossesse?
Exactement. T'sais, moi, j'étais à 19 semaines, donc encore au moment où on peut interrompre la grossesse, en fait. C'est quand même une option qui a été mise sur la table dès la tombée du diagnostic, si tu veux, dans le fond. Fait que, tu sais, au-delà... Puis, j'irai pas en profondeur dans la réflexion que moi, j'ai eu à faire par rapport à ça, mais dans les deux cas, c'est un choix impossible à faire parce que ça vient avec énormément de culpabilité d'un côté, parce qu'un côté, tu peux interrompre ta grossesse, si tu te fais opérer dans un mois, on l'enlève ton cancer, puis en principe, si on enlève tout, c'est réglé, t'as pas besoin de traitement de chimiothérapie, puis quand t'apprends que t'as le cancer, t'es comme « arc, je veux qu'on l'enlève maintenant ». Puis moi, je l'ai vu là. Tumeur ou lésion, là, je sais pas trop comment on appelle ça, mais il y avait un écran, puis j'ai vu ce que ça avait l'air, puis j'avais juste envie de dire, puis là, ça pas rapport, là, mais j'avais envie de dire, gratte-le, enlève-le, puis tu sais, je veux pas ça dans mon corps, là. Fait que tu sais, là, on peut rien faire parce que je suis enceinte, mais si j'étais pas enceinte, on pourrait l'enlever dans un mois, ce serait fini, là, on n'en parlerait même plus, ce serait juste une anecdote de passage, tu sais, j'ai eu le cancer à 34 ans, puis c'est terminé, tu sais, il s'est rien passé. Mais là, si je veux poursuivre la grossesse, ben à ce moment-là, ça vient avec des traitements de chimiothérapie, ça vient avec la perte de cheveux, puis là, ben c'est ça, tu sais, t'as de la culpabilité de penser que si t'interromps la grossesse, tu sais, c'est quand même un dur choix, mais t'as de la culpabilité aussi de garder le bébé en chimiothérapie, parce que tu te dis, ben c'est dangereux pour le bébé, tu sais, apparemment que le placenta crée une barrière entre le traitement puis le bébé, mais c'est fascinant. Moi, bon, finalement, j'ai fait les traitements de chimiothérapie, j'ai poursuivi la grossesse, mais quand tu reçois toute la documentation de l'hôpital qui dit quoi faire et ne pas faire pendant les traitements, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses, la chimiothérapie, puis juste, tu sais, ils disent les femmes enceintes ne devraient pas aller visiter quelqu'un en traitement de chimiothérapie. Puis, tu sais, les infirmières portent des gants, des masques, se mettent, tu sais, quand ils manipulent le produit, là, ils se mettent des espèces de jaquettes, là. Fait que, tu sais, je veux dire, puis là, moi, tu sais, je me dis, vous mettez ça dans mon corps, là. Je fais pas juste visiter quelqu'un qui est assis sur une chaise de chimiothérapie, vous l'injectez dans mon corps. Fait que c'est quand même très, ça vient avec beaucoup de culpabilité.
Donc, tu choisis, toi, de faire les traitements de chimiothérapie. Tu lis toute la documentation en te disant « Oh mon Dieu, dans quoi je m'embarque, là, à la limite?
Oui. »
Et est-ce qu'il y avait un risque pour ton bébé avec la chimio?
Bien, c'est ça. En principe, si le placenta fait sa job, il n'y a pas vraiment de risque. Bien, c'est assez minime. Après ça, le fait juste d'avoir le cancer et des traitements de chimiothérapie, ça faisait de moi une grossesse très à risque, en fait. Donc, oui, il y a des risques pour plein de raisons, mais les risques sont un petit peu, après ça, autour, tu sais, de ce qui vient avec ça. Parce que quand ils m'ont annoncé, justement, pour le cancer, on dit, bon, si on poursuit la grossesse, on va interrompre, ben pas on va interrompre, mais on va t'accoucher à peu près à 34 semaines de grossesse par césarienne, parce qu'on peut pas passer, moi, c'était le col de l'utérus, là, on pouvait pas passer le bébé par voie vaginale. Fait que là, 34 semaines, ça veut dire que le bébé va être prématuré. Fait qu'il y a des risques reliés à la prématurité du bébé. Puis il y a aussi, bon, des facteurs qui viennent un petit peu jouer. Le fait que je faisais de la chimiothérapie, ça a eu un impact à un moment donné sur la croissance du bébé, en fait. Donc, il y a eu un retard de croissance à peu près à 29 semaines de grossesse. Donc, là, à ce moment-là, on suivait ma fille là, dans mon ventre à toutes les semaines. Mais moi, j'avais vraiment peur d'avoir un très grand prématuré. Ça n'a pas été le cas. En fait, je me suis négocié 2 semaines de grossesse de plus.
C'est négocié de la grossesse. J'adore ça.
J'ai dit, ben OK, vous dites 34. Ici, on essayait d'y aller jusqu'à 36 semaines. Puis là, le docteur a dit, ben tu sais, nous, c'est sûr qu'on veut que le bébé reste là le plus longtemps possible. Fait que si on est capable d'aller à 36, c'est correct. S'il est bien dans ton corps, c'est correct. Sinon, s'il se rend compte qu'il n'est plus bien puis que c'est mieux de la sortir, ben là, il l'aurait sorti. Fait que, tu sais, de 29 à 36 semaines, c'était à chaque semaine une petite victoire de « OK, t'es encore bien, le Doppler est bon, fait qu'on continue, fait qu'il y avait ça.
Ouais. » Mais, donc, t'as passé pratiquement toute ta grossesse à l'hôpital, là. Tu devais tout le temps faire des va-et-vient entre chez toi et le CHUM.
Oui, exactement, parce que dans le fond, j'avais des traitements de chimiothérapie aux 3 semaines. Ça a commencé au mois de mai. J'ai eu 4 traitements de chimiothérapie. En fait, à cause des 2 semaines que je m'étais négociée, j'étais supposée en avoir 5. Puis on était obligé d'annuler. Mon Dieu, c'est vraiment une belle obligation. Tu sais, j'étais bien contente qu'on l'annule, là, mais ouais, on a annulé le dernier traitement à cause du retard de croissance. Parce que c'était super important, en fait, que on sorte pas le bébé tout de suite après un traitement de chimiothérapie parce que ça affaiblit beaucoup le système et de la mère et du bébé. Fait que dans le fond, il y avait plus de danger d'opérer au moment où si on la sortait tout de suite après la chimiothérapie. Fait que l'objectif, c'était d'attendre au moins 3 semaines après le dernier traitement de chimiothérapie pour sortir le bébé. Parce que quand on sortait le bébé par césarienne, moi, je devais aussi subir l'opération pour le cancer. C'était comme un 2 en 1.
Un petit deux pour un,
une petite affaire, là.
Donc, il te planifiait ta césarienne et en même temps, qu'est-ce qu'il allait faire pour ton cancer?
Il allait faire une hystérectomie, donc enlever l'utérus au complet, là, et ce qui est autour, là. Moi, dans ma tête, c'était comme il enlève le bébé et sa maison en même temps, tu sais.
Il enlève tout d'un coup, mais là, ouais. J'ai une question pour toi, là, puis peut-être que t'as pas de réponse pour moi, mais mettons, est-ce que tu voulais plusieurs enfants?
À la base, on avait décidé d'en avoir un, fait que c'était pas si pire, mais j'avoue que après, tu sais, une fois qu'elle est née et tout, moi, je pensais pas que j'aurais un deuil de l'utérus à faire, mais là, tu sais, juste 11 semaines, fait que ça fait pas si longtemps, là, mais j'avoue que j'ai eu un petit moment où je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, c'est un one-shot deal, puis c'est elle, puis il n'y en aura pas d'autres, là, tu sais, ça a été quand même si c'était une décision consciente, ça a quand même été un choc. Mais tu sais, en même temps, le fait d'apprendre que j'avais le cancer en même temps que la grossesse, puis ça n'a rien à voir, les deux n'ont rien à voir ensemble parce que le pap test s'est fait avant, mais c'est un peu une chance dans ma malchance parce que sinon, j'aurais probablement pas pu avoir d'enfant. Tu sais, on a enlevé mon utérus avant. Fait que tu sais, c'est plate, je peux pas avoir d'autres enfants, mais en même temps, bon, tu sais, c'est correct. Je vis bien avec ça.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir, avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Je suis Martin Landry, je suis professeur d'histoire. Dans le balado Passé date, je te raconte les histoires importantes qui se sont passées ici, de Samuel de Champlain au référendum de 1995.
Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte.
Que tu sois au secondaire comme mes élèves ou que tu sois simplement passionné d'histoire, je t'invite à écouter notre nouvelle saison. En passant, Passé date a gagné le prix Numix 2022 du meilleur balado divertissement. C'est tout un honneur qu'on est bien fiers de partager avec toi. Tu peux écouter les 3 saisons sur l'application Cube ou sur les autres plateformes de balado. Oublie pas, tu peux parler de Passé date à tes amis, à tes professeurs et à ton entourage. Passé date est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.
Tu fais tes traitements de chimiothérapie, ta fille grandit, 29 semaines, elle commence à prendre un peu de retard, mais on réussit à étirer un petit peu. Arrive le moment de ta césarienne planifiée. Comment ça se passe?
Oh mon Dieu, ça... Je sais pas par où commencer. Ben, tu sais, avec du recul... L'accouchement a été la partie la plus facile de tout ça parce que en plus des traitements de chimiothérapie, moi j'ai eu plein d'affaires. J'ai eu aussi du diabète de grossesse, puis j'ai eu à un moment donné des démangeaisons aux mains puis aux pieds. C'était super intense. Je pense que ça s'appelle le cléostase.
Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais juste qu'il faut que tu mettes les gants de rollerblade là. J'appelle tout le temps ça de même, mais tu sais, ils mettent des genres de petits protecteurs de main là pour que ça désengourdisse.
Ah ouais, ben j'ai pas eu les protecteurs de main parce que finalement c'était pas ça. On savait pas si c'était la chimio, la grossesse ou quoi. Mais tu sais, à chaque semaine, je me disais, mais mon Dieu, peux-tu avoir comme une pire grossesse que ça. Tu sais, tout s'enchaînait. Puis finalement, l'accouchement, moi, j'avais peur, tu sais, même si j'ai été super bien entourée, super bien prise en charge par les médecins, là, honnêtement. Je pense qu'il était 15 là, dans la salle de la césarienne. Tu sais, j'étais au bloc opératoire, là. J'étais pas aux salles d'accouchement normales, si tu veux.
Parce que t'as pas eu de signes. Tu sais, des fois, il y en a qui ont une césarienne planifiée, mais que, bon, ont des contractions ou crèvent les os avant leur date. Mais toi, t'es arrivée à l'hôpital prête, dans le sens qu'il n'y avait pas de travail qui était entamé. T'étais vraiment là pour ta césarienne. Donc, il n'y avait pas d'urgence, nécessairement.
Non, il n'y avait pas d'urgence, mais, tu sais, il fallait que ça soit planifié parce que là, dans le fond, beaucoup de monde d'impliqué. Tu sais, il y a l'obstétricienne qui, elle, est là pour la partie césarienne. Fait que l'obstétricienne est là, il y a un anesthésiste qui est là, il y a plein d'infirmières et d'autres mondes qui gravitent autour, une oncologue qui est là, son assistant. Honnêtement, après que j'ai accouché, il y a des gens qui venaient me voir dans ma chambre, puis ils me disaient « J'étais là quand le jour où t'as accouché, puis je me rappelais pas du tout des avoir vus. » Il y avait beaucoup de monde.
Il y en a qui ont des showers, toi, t'as comme un party d'accouchement.
Oui, exactement. Exactement. Mais l'accouchement, ça a été la partie facile dans le sens où, tu sais, c'est pas moi qui s'en ai occupée. Là. J'ai été super bien prise en charge, puis ultimement, ça s'est bien passé. Mais comme je t'ai dit, moi, j'avais quand même assez peur parce que c'est gros. Tu sais, la césarienne, tu peux perdre beaucoup de sang. L'hystérectomie aussi, c'est 2 grosses opérations.
Mais est-ce que tu étais entourée, tu sais, autant dans ta grossesse que dans ton traitement de chimio? Est-ce que tu avais des gens autour de toi pour t'aider puis t'épauler?
Tu veux dire dans ma famille?
Oui, famille, amis, conjoints.
Oui, vraiment. Ben, tu sais, mon chum, honnêtement, tu sais, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui, là. Tu sais, il était là... lui aussi, là, il a un peu passé son été à l'hôpital à m'accompagner là-dedans, puis à être... Puis c'est quand t'es dans cet état d'esprit-là de t'as le cancer et tout, tu montres pas beaucoup de signes d'appréciation, mais lui, tu sais, c'est lui qui allait... Quand on a su pour le cancer, il était là avec moi, puis tu sais... Lui, il était super fort, puis tu sais, je l'ai pas vu beaucoup être émotif, même si je sais qu'il y a eu des émotions à travers ça. Mais, tu sais, c'est ça, c'est lui qui devait prendre en charge la naissance de ma fille, parce que moi, après, puis on était rendu là à parler de l'accouchement, c'est que au moment où j'accouchais, mais après ça, on m'endormait pour aller m'opérer, puis c'est une opération qui dure comme 3-4 heures, je pense, ou entre 2 et 4 heures, je me rappelle pas exactement combien de temps ça a pris. Mais tu sais, c'est lui qui était là. Puis ça, c'est... Je m'excuse.
Mais non!
Ouais. Le lien que j'ai... Tu sais, on était déjà super proches, mais le lien que j'ai développé avec lui, c'est tellement puissant. Mais en plus, c'est ça, ça a été lui qui a été là pour... Pour notre fille, tu sais, c'est lui qui la prend en charge aux premières heures de sa vie. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de particulier.
C'est vraiment beau.
Oui.
Mais est-ce que vous aviez fait un plan de match? Tu sais, est-ce que vous en aviez discuté, sachant que ça allait arriver?
Oui, vraiment. Tu sais, puis quand ils sortent le bébé, s'il est pas correct, ben dans le fond... Faut l'amener en néonatologie et tout, puis j'aurais pas pu nécessairement le voir. Fait que, tu sais, il y avait une partie où on avait décidé, dans le fond, de faire une césarienne, puis que moi, j'allais être réveillée, parce que j'aurais pu être endormie, puis après, on va t'endormir pour l'hystérectomie.
T'arrives donc le matin à l'hôpital, oui. On te fait enfiler ta petite jaquette, oui. Venez avec nous dans la salle d'opération. J'imagine ton chum a dû se changer lui aussi.
Oui, dans le fond, oui. Là, j'arrive à l'hôpital, je mets ma jaquette, puis là, il faut qu'on m'installe des cathéters. Là, j'étais branchée de partout. Et moi, je suis très difficile à piquer. Fait que ça a comme très mal commencé, en fait. Là, pas capable de me piquer dans un des bras. C'est super compliqué. Fait que là, rate la piqûre. Moi, je fais un choc vagal. Fait que là, j'ai chaud, j'ai mal au cœur. Il y a comme 5 personnes qui viennent dans la salle. Tu sais, il est 6 heures du matin. Oh. L'opération est prévue pour quelque chose comme autour de 8h30, 9h. Plus, ça va déjà très mal. Mon chum, il est même pas changé encore. Puis là, on est comme, hey, bye-bye. Ouais, fait que... Puis là, ben c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, j'allais avoir une épidurale ou péridurale, je sais que vous utilisez les deux
termes. Ouais, les deux, c'est pas clair, on est fluide. On est fluide de la piqûre.
J'avais l'épidurale et une rachidienne, en fait, qui est comme une piqûre dans le dos aussi, mais un petit peu plus profonde, puis c'est un effet un peu plus instantané pour être sûr que tu es gelé assez rapidement. Puis l'épidurale, il me faisait les deux parce que j'ai continué à avoir, je pense, l'épidurale pendant comme 2 jours après pour contrôler la douleur. Parce que j'avais pas une cicatrice horizontale comme une césarienne régulière. J'avais une cicatrice à la verticale, plus longue, plus... parce qu'en enlevant l'utérus, il fallait qu'il y ait plus d'accès autour, là.
Oh my God!
Fait que, tu sais, avec la gestion de la douleur, moi, je suis restée 5 jours à l'hôpital après, là.
OK. Mais c'est quand même pas si long, on dirait, pour la grosse opération que t'as eue.
Quand même pas si long. J'avoue que quand on sera rendu là, ouais.
C'est peut-être moi qui vais faire un choc vagal pendant que tu vas raconter ça.
Puis là, je voyais mon chum, là, dans le... Il y a même une infirmière, elle me dit, ton chum, il s'inquiète pour toi parce qu'il m'a vu trembler. Tu sais, ils sont encore en train de me préparer, fait qu'il est pas dans la salle à côté de moi, mais il me voit shaker, là, le gros, gros shake, fait que lui, il fait les 100 pas dans le couloir, puis il a hâte d'être avec moi parce que lui, il se dit, ben peut-être qu'elle est stressée, qu'elle a peur, parce que, tu sais, c'est quand même gros ce qui s'en vient. Là. C'est l'événement le plus intense de ma vie à ce jour. J'espère que ça va le rester, parce que maintenant...
Tu feras pas de parachute, tu feras pas de bungee.
Non.
Mais là, t'as-tu fini d'arrêter de trembler à un moment donné?
Oui. Okay. À un moment donné, j'ai arrêté de trembler. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé dans le processus, mais tu sais, c'est quand même long, toute la préparation. À un moment donné, j'ai un drap devant moi.
Là, tu es couchée.
Je suis couchée, puis j'ai un drap devant...
À la poitrine?
Mon visage, ou à la poitrine, comme une césarienne régulière, je pense, de ce que je comprends que c'est une césarienne habituellement. Puis là, il travaille, mais je sens quand même des choses. Puis là, moi, c'est ma grosse peur. Là. Je disais à toutes les deux minutes, je sais que vous travaillez sur mon ventre. Là, je le sens. Là. Êtes-vous sûr que ça marche? Votre piqûre. Êtes-vous sûr que je suis vraiment gelée? Puis là, l'anesthésiste, il me dit, tu sais, on t'a donné un gros... On t'a pincé super fort avec une pince ou je sais pas trop. Puis il avait fait des choses sur mon corps que j'avais pas senti et que ça me rassurait un peu parce que tu sens pas des grosses sensations, mais comme de la pression un peu, tu sais.
Ouais.
Donc, c'est ça.
Donc là, t'avais peur de pas être gelée, mais finalement, t'étais bien
gelée.
Et c'est là, dans le fond, qu'ils font la césarienne?
Ouais, exact. À un moment donné, ils ont commencé, ils ont dit, je pense qu'ils ont dû dire « on est prêt ». Ils commencent la césarienne. Ça dure pas si longtemps, je sais pas combien de temps, mais c'est pas très, très long. Mon chum est à côté de moi, tu sais, proche, sa face ici. L'anesthésiste, ben ici, personne ne voit.
Ouais, moi, j'étais comme, oh oui, vraiment proche, c'est
dans,
cute.
Quasiment dans mon cou, là. Et... puis c'est ça, tu sais, quand ils l'ont sorti, ben ça a pris 2 secondes et quart, même pas à le pleurer. Elle est très bonne pour ça, hurler, là, elle a hurlé. Elle est encore bonne pour ça à ce jour. Et c'est ça, tu sais, les médecins l'ont comme levé, puis on a vu sa petite face un peu contrariée au-dessus du drap qu'il y avait sur qu'il y avait devant mon visage. On a juste vu sa face contrariée. Qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Moi, j'étais bien là. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est drôle parce qu'elle se ressemble encore quand elle est fâchée. Je revois sa face de bébé comme voyons, pourquoi vous me faites ça? Et là, finalement, il la prépare ça, une minute, là, je sais, ils l'ont à peine préparé, là, je veux dire, ils l'ont comme emballé ou je sais pas trop, puis ils l'ont mis sur moi, dans mon cou.
Fait que t'as pu la rencontrer oui. Avant.
Oui, oui, oui.
Puis comment tu t'es sentie quand ils l'ont mis sur toi?
Ah, c'était un moment tellement magique, puis tu sais, j'en ai tellement profité, je sais pas si j'ai déjà profité autant de quelque chose de toute ma vie, parce que je savais que c'était très limité. Puis que c'était la seule fois aussi. Fait que, tu sais, j'ai une photo de ce moment-là, puis c'est tellement une petite bulle d'amour, là, avec mon chum à côté. Oui.
Puis qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu?
Que je me suis dit que je voulais plus jamais la déposer, tu sais. Je me suis dit, je la dépose plus jamais, ce qui est physiquement impossible, mais ça a été l'amour instantané. Tellement contente que ça se passe comme ça aussi, tu sais, c'était notre plan A, là. On a réussi à la rendre à 36 semaines, j'ai réussi à la voir, tu sais, tout ça. J'étais tellement, beaucoup d'appréciation, tu sais, j'ai senti beaucoup d'injustice de vivre ça, de vivre le cancer pendant la grossesse et tout, là, mais ce moment-là, j'étais dans l'appréciation totale d'avoir eu un aussi beau moment. Dans toutes les étapes de cette aventure, si on peut appeler ça comme ça, là. C'est rare que j'ai eu des moments où j'étais très sereine, puis c'était le cas avant qu'ils m'endorment, et ça a été le cas aussi après quand ils m'ont réveillée.
T'as eu ton opération, tout s'est bien passé, salle de réveil, ton chum, ton bébé, ça t'attendent. Comment ça se passe?
Ben là, c'est ça. Je suis dans la salle de réveil, puis je suis vraiment chill et relax. J'ai un peu le même état qu'avant qu'il m'endorme. Tu sais, j'étais sereine avec mon bébé. Je pense que le fait que j'ai pu l'avoir a fait toute la différence. Tu sais, si j'avais pas pu l'avoir, je me serais probablement réveillée en sachant pas ce qui s'était passé avec elle. Tu sais, s'ils l'amènent loin, c'est parce qu'ils ont besoin d'intervenir. Tu sais, fait que. J'étais vraiment relaxe, puis ils n'ont pas trop niaisé non plus, tu sais, ils m'ont pas laissé en salle de réveil super longtemps, ils m'ont rapidement amenée dans la chambre où là, tu sais, c'est drôle comme sensation parce que, tu sais, je viens de me faire opérer puis je suis super faible, mais j'ai l'impression d'avoir souri le plus gros sourire de ma vie en rentrant dans la chambre puis en voyant mon chum sur le bord de la fenêtre à côté de dans le fauteuil avec le bébé. Puis lui aussi, tu sais, super content de me voir parce que, tu sais, au final, moi, je suis là pendant, comme, c'est ça, je disais 3-4 heures, là. Moi, c'est comme si je m'étais endormie 5 minutes, puis je reviens. Mais lui, mettons qu'il était là pendant 5 heures à attendre, puis à pas avoir de nouvelles ou très peu. J'imagine que pour lui aussi, c'était un grand soulagement. Là. Fait que, tu sais, l'espèce de... la face de mon chum quand j'arrive dans la salle ou le moment où mon bébé est sur moi, tu sais, c'est des moments très, très marquants, là, je te dirais. Puis, tu sais, quand je l'ai repris dans mes bras, c'était surtout là, parce que, tu sais, bon, quand ils m'ont amené pour l'opération, tu sais, là, oui, je l'ai remis à son père et pour qu'il en prenne soin, mais après, j'étais là, OK, ben là, je la dépose plus jamais, fait que c'est comme ça, on va rester collés tout le temps avec sa petite main dans mon cou. Écoute, c'est quelque chose.
Moment de bonheur absolument magnifique dans la chambre avec ton bébé, avec ton chum. J'aime beaucoup l'image de la petite main dans le cou parce que sont tellement petits.
Oui.
Ils sont tellement, tellement petits quand ils sont là. Mais quand vous avez eu votre congé de l'hôpital, comment tu te sentais? Te sentais-tu prête à affronter la vie ou t'aurais peut-être aimé rester encore une couple de jours?
Je pense que j'aurais aimé rester encore une couple de jours, honnêtement, parce que, tu sais, t'es pris en charge, même si notre bébé était avec nous tout le long dans la chambre. Mais ça reste que, tu sais, comme on disait tantôt, j'ai été au CHUM tout l'été, tu sais, fait que j'étais très, très, très prise en charge. Puis du moment où je suis partie de l'hôpital, ça a été quasiment comme, ben maintenant le travail est fait, bonne vie, tu sais, puis avec tout le respect du monde, là, mais je veux dire, tu sais, ça a été, j'ai presque pas marché, en fait, pendant 5 jours, parce que, bon, la cicatrice, j'avais en fait, à cause de ma condition, le cancer, l'opération, la grossesse, j'avais plus de risques d'embolie pulmonaire, puis de... de caillots de sang, là, de façon générale. Fait que j'avais des espèces de bas de contention. Je sais pas, c'était pas vraiment des bas, mais des espèces de... C'est des trucs avec des velcro, là. C'est un peu comme quelque chose que, quand tu prends la pression, là, ce qui attache autour de ton bras, ouais, là, puis qui fait une pression, puis qui relâche, ben c'était ça, mais sur mes deux jambes. Fait que, tu sais, j'avais comme constamment un truc qui pressait mes jambes, relâchait, 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Fait que, tu sais, si je voulais me lever, parce qu'il essayait de m'encourager à me lever, ben là, il fallait qu'il y ait soit un préposé, soit une infirmière qui vienne. J'avais aussi une sonde urinaire, ce qui est normal après une césarienne, mais qui a duré pendant 5 jours aussi. Fait que là, c'est comme, avant de sortir de l'hôpital, tu sais, il faut s'assurer que tu as fait comme 2 pipis. Puis, tu sais, c'était comme, ça a été un genre de 4 jours de... prends ton temps, tu sais. Mais en même temps, comme le 5e jour, c'est comme, OK, tu sais, j'ai presque pas marché pendant 5 jours, puis là, c'est comme, OK, tu pars du 9e étage, puis, tu sais, go, là, t'es pas... tu marches jusqu'au stationnement, puis là, dans la voiture, en revenant à la maison, j'étais un peu... sous le choc. Mais après ça, t'arrives chez toi, puis t'es comme, oh, la vraie vie te rentre dedans.
C'est ça que j'allais dire. Il y a comme, t'as plus de filet, t'as plus rien, c'est vraiment... la vraie vie qui commence avec ton bébé qui dort pas, avec ta convalescence aussi, parce qu'il faut pas oublier que tu as subi une opération. Puis tu me disais que ta fille est née à 36 semaines. Est-ce qu'il y a eu des conséquences de sa prématurité? Parce que c'est quand même proche de 38, mais est-ce qu'elle a eu des séquelles?
Non, juste son petit poids, dans le fond, était à 4,7 livres à peu près quand elle est née. Elle était petite, c'est là. J'ai vu
c'est plein de... C'est 2 livres de beurre. Pour les gens visuels, là, c'est 4 livres de beurre, en fait. C'est 4 livres de beurre, voilà.
Donc, c'est ça. À part être petite, il n'y avait pas vraiment de conséquences à sa prématurité, mais c'est ça, elle était pas grosse. Fait que là, l'idée, c'était de la faire grossir le plus possible.
Là. Oui. En lui donnant des cuillerées de beurre, justement,
oui,
pour
ça.
L'engraisser.
On passait 1 livre de beurre par jour.
Et là, aujourd'hui, donc, ta fille a 11 semaines.
Oui.
Je comprends qu'elle ne dort pas beaucoup, mais qu'elle va très bien.
Exactement. Exactement. Elle va super bien. Elle y a aucune séquelle, mettons, de la chimiothérapie ou de la prématurité même.
Elle va très bien, mais toi, comment vas-tu?
Ben moi, à part le manque de sommeil, je dirais que je vais très bien. Je suis officiellement en rémission aujourd'hui.
Ben là!
Oui, exactement. Je l'ai ici il n'y a pas si longtemps. Là, ça a pris comme peut-être un 6-7 semaines avant que je sache, mais c'est ça. Je suis officiellement en rémission. Mes cheveux recommencent à pousser un petit peu. Là, je commence à avoir des petits spikes sur la tête. Je suis encore à l'étape où je porte des foulards, mais tu sais, on s'en va vers quelque chose de positif, là, tu sais. Parce que c'est ça, c'est derrière nous. C'est sûr que, tu sais, j'ai encore des marques. C'est ça qui arrive, tu sais. Tantôt, je disais, le cancer, ça fait pas mal ou tu te sens pas en mauvaise santé quand t'as le cancer, mais c'est toutes les marques que ça laisse, tu sais, la perte des cheveux, la grosse cicatrice, là, j'ai fait des réactions allergiques aussi, avec j'ai des spots sur le ventre, tu sais, c'est pas chic, là, c'est vraiment pas chic, mon affaire.
Ça, t'auras rien eu de facile, là. Non. Tous les effets secondaires qui se peuvent, on dirait que t'as tout eu. Écoute, Stéphanie, j'ai une dernière question pour toi.
Vas-y.
Qu'est-ce que t'aimerais dire aux mamans qui nous écoutent en ce moment ou peut-être même aux futures mamans qui nous écoutent en ce moment?
Aïe, aïe, c'est une bonne question. Ben, tu sais, je pense que, ultimement, là, que ce soit une belle ou une moins belle grossesse, je pense que le résultat, comme on dit, en vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, c'est juste que je pense qu'il faut... Puis c'est une des raisons pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est qu'il faut en parler quand ça va moins bien aussi, tu sais. Parce qu'on a beaucoup d'histoires dans lesquelles ça va bien, ou tu sais, on est à l'époque des Instagram, ou tu sais, les grossesses rayonnantes et tout. C'est pas parce que tu vis pas une grossesse rayonnante que, tu sais, il faut légitimiser un peu ça. C'est des moments où c'est difficile, puis des moments de doute dans la grossesse. Puis, tu sais, je pense qu'il faut en parler le plus possible pour que les gens sentent que les femmes sentent qu'ils ont le droit de vivre des moments plus difficiles, puis que ça veut pas dire que tu vas moins aimer ton enfant parce que la grossesse a pas été particulièrement agréable, ou tu sais, ben c'est ça, en parler le plus possible pour se sentir mieux ou moins avoir de sentiments de culpabilité de vivre des choses qui sont moins le fun des fois là.
Ben merci beaucoup, Stéphanie.
Ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir écoutée.
Ça me fait plaisir.
À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.